Saint-Raphaël Arnaise Baron. Raphaël, en religion, frère Maria Raphaël, né le 9 avril 1911 à Burgos, en Espagne. Premier de 4 enfants d'une famille aisée, catholique pratiquante. Tout commence vraiment lorsqu'en 1930, tout jeune bachelier, il obtient comme cadeau de fin d'études de passer ses vacances d'été chez son oncle et sa tante, Leopoldo et Maria, duc de Maqueda, non loin d'Avila. C'est le commencement d'une amitié spirituelle intense entre Raphaël et ses oncles, dont témoigne une correspondance abondante et profonde. C'est à l'issue de ces vacances que, sur le conseil de l'oncle, Raphaël passe son premier séjour à la trappe de San Isidoro de Duenas, en septembre 1930. Il est séduit par le silence, enthousiasmé par la beauté du lieu, ravi par les sonorités du Salve Regina, entendu et accompli. Raphaël, très doué pour le dessin, commence des études prometteuses d'architecture à Madrid. Mais il prend enfin la grande décision et entre au monastère le 15 janvier 1934, convaincu d'avoir trouvé sa vocation. Mais un diabète se déclare d'une façon foudroyante, 4 mois après son entrée. Il oblige le novice presque moribond à quitter, triste et perplexe, son cher monastère. Ce n'est qu'en janvier 1936, après une longue convalescence, qu'il peut entrer de nouveau à San Isidoro, cette fois en qualité de simple oblat, car sa maladie ne lui permet pas de suivre les exigences de la règle. Pendant une deuxième sortie, septembre-décembre 1936, il est déclaré inapte à porter les armes dans le conflit qui ravage son pays. Après une troisième sortie, février-décembre 1937, il vit son dernier séjour à la trappe, du 15 décembre 1937 au 26 avril 1938, comme son dernier carême et une préparation au dernier dépouillement, celui de sa vie sur la terre. Le mystère de cette vie, jusqu'au bout, aura été de se laisser conduire à travers les perplexités d'une vocation embrassée avec enthousiasme et sans cesse contrariée, par la maladie, par la guerre, par l'impossibilité de prononcer ses vœux monastiques, par le manque de relations communautaires normales. Son officiat sur la terre, accompli dans la solitude et la maladie humiliante, s'achève lorsqu'à Pâques, enfin revêtu de la coule par une faveur spéciale de son abbé, il entre, par son passage à la vraie vie, dans la communauté céleste. Ce mystère de dépouillement si dramatique n'a pu être vécu que grâce à un amour débordant et à une joie qui possède, plutôt que de la naïveté, un certain humour, une certaine marque d'humilité. Le Dieu de Raphaël, son Christ, n'est pas l'objet d'études, mais le compagnon d'une expérience vécue, transcendante, d'amour absolu. Son seul désir était de vivre pour aimer, aimer Jésus, aimer Marie, aimer la croix, aimer son cher monastère. L'exubérance de sa foi et l'enthousiasme de son amour se sont avérés invincibles. Voilà la caractéristique foncière de sa spiritualité personnelle. Raphaël est un trappiste fou et excité d'amour pour Dieu, qui sans cesse se retient de crier à tue-tête la miséricorde de Dieu à son égard. Et cette force le mène toujours davantage à l'essentiel, à ce qui comble son cœur en vérité, Dieu seul. Dans la solitude et le silence, la souffrance de la croix devient le lieu propre où il renonce à lui-même. Et sa propre souffrance, acceptée comme grâce de Dieu, permet le dépouillement ultime de l'humilité. Raphaël ne s'appartient plus. Il n'y a que Dieu seul, le message fou de l'amour. Au pays de Gabi, sur la voie Préneste, au 30e mille de Rome, saint primitif martyr. À Rome, commémoraison de saint Clé, pape, qui gouverna l'Église romaine, le second après saint Pierre. Dans les listes épiscopales romaines transmises par Eusèbe, Hégésippe, et Irénée, il apparaît après l'un. Clé est une abréviation d'Anaclée, ou plutôt Anaclétos, ce qui signifie en grec l'irréprochable. Il est mort sous Domitien. À Amasée, dans le Pont, vers 322, Saint Basilée, évêque et martyr sous l'empereur Licinius. Dans la forêt de Crécy, du pays d'Amiens, en 645, Saint Riquier, prêtre, qui remué par la prédication de moines irlandais, se convertit à Dieu, se fit missionnaire dans les provinces du Nord, fonda à Santul un monastère pour ses disciples et finit ses jours dans une cabane. Au monastère de Corbie, au pays d'Amiens, en 865, Saint Pachaz Radbert, abbé, qui exposa de manière lumineuse la réalité du corps et du sang du Seigneur dans le mystère eucharistique. À Foggia, dans les Pouilles, au XIIe siècle, Saint Guillaume et Pérégrin, ermite. En Aragon, vers le XIIIe siècle, les saints Dominique et Grégoire, prêtres, qui toujours sur les routes, sans or ni argent, quêtant chaque jour leur nourriture, annonçaient à tous la parole de Dieu. À Moscou, au monastère de la Transfiguration, en 1396, la mise au tombeau de Saint Étienne, évêque de Perm, qui évangélisa le peuple finno-hongrien des Irianes et l'instruisit des vérités de la foi, inventant pour eux un alphabet, célébrant la liturgie dans leur langue, détruisant les idoles, édifiant des églises. À Remedello, au pays de Brescia en Lombardie, l'an 1913, le bienheureux Jean Piamarta, prêtre, qui au milieu de lourdes épreuves, fonda l'Institut des petits artisans de Brescia et dans le voisinage une colonie agricole où les jeunes recevaient une formation religieuse tout en apprenant un métier. Et pour cette œuvre, il établit également la congrégation de la Sainte Famille de Nazareth. À Montjuïc, près de Gérone en Espagne, l'an 1936, le bienheureux Jules Juinière Paderne, prêtre salésien et martyr, victime de la persécution religieuse au cours de la guerre civile. Au camp de concentration de Sachsenhausen en Allemagne, le bienheureux Stanislas Kubista, prêtre de la Société du Verbe divin et martyr. Sous l'occupation de la Pologne par le régime nazi, il fut déporté dans ce camp et succomba sous la torture. Avec lui, on commémore le bienheureux Ladislas Goral, évêque auxiliaire de Lublin, qui mourut des suites des épreuves endurées dans ce camp, dans un isolement total, vers la fin de ce mois.